Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de votre plus petite audience viable. Et pour m'accompagner, eh bien, je suis avec le sociologue de la bande, hein, puisque c'est Adjane Chély.
Salut Thibaut. Moi d'abord, j'aurais commencé à parler à ma petite audience viable qui est très très jeune. Conseil de personnes plus vieilles. Ne vous couchez pas trop tard le dimanche matin si vous voulez être en forme le lundi matin. Voilà, c'est mon petit tips pour la jeunesse.
C'est beau, ouais, mais effectivement. T'as une petite mine, hein, t'as besoin de café ce matin. Ça va pas nous empêcher de parler marketing, hein, ce matin, les amis. 3,4 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde. Facebook qui compte 2,2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Instagram 1 milliard, TikTok 500 millions. Et pourtant, les médias sociaux ne sont pas des médias de masse. C'est pas que nous qui le disons, hein. C'est aussi Seth Godin. Seth Godin, c'est le gourou américain du marketing. Et c'est d'ailleurs à lui qu'on doit la théorie de « the smallest valuable audience », la plus petite audience viable. Et c'est vraiment le sujet dont on souhaitait parler avec vous ce matin.
Et oui, on se dit souvent, hein, sur les réseaux sociaux que plus c'est grand, mieux c'est. Et non, pas du tout. Seth Godin, lui, va à l'opposé de ça. Pour lui, il croit pas, hein, à cette course folle au vanity metrics, un peu au final, hein, à avoir la plus grosse communauté possible. Au final, pour lui, ce serait même le sacrifice de ce qui nous rend un petit peu spécial.
Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser, hein, qu'on voulait inviter Seth Godin ce matin, il ne pouvait pas, il avait piscine. Donc, du coup, on fait sans lui. Donc, Seth, si tu nous écoutes, tu vas nous manquer, mais on va essayer d'expliquer un peu ta pensée. Hein. Voilà, donc Seth Godin, évidemment, on rigole. Hein. Seth Godin, c'est évidemment un gourou qui est assez intouchable, mais qui surtout est toujours très inspiré en matière de marketing.
Intouchable, mais qui écouterait le Super Daily.
Oui, il l'écoute, bien sûr, il l'écoute en français parce qu'il est francophile. Et donc, effectivement, pour lui, les médias sociaux ne sont pas des médias de masse. Et nous, on trouve ça très intéressant parce que, effectivement, aujourd'hui, le focus, quand il s'agit de médias sociaux, est bien souvent quantitatif. Hein. On va parler, évidemment, de vos followers, de vos likes, de vos clics, tous ces vanity metrics dont on a souvent déjà parlé. Et pour, effectivement, pour Seth Godin, c'est une tentation dans laquelle il ne faut pas tomber.
Oui, non, exactement. Hein, pour essayer un peu de résumer cette pensée, en gros, pour faire plus simple, plus vous touchez de gens, moins votre message va passer parce qu'il n'est pas assez personnalisé en soi. C'est-à-dire que quand vous devenez mainstream, vous commencez à perdre un peu de votre identité. C'est là où je disais, vous perdez un peu ce qui vous rend spécial. C'est qu'à force de vouloir parler à tout le monde, et vous finissez par parler à personne.
En fait. Ouais, selon lui, hein, si on cherche à toucher le plus grand nombre, on est obligé de tomber et de viser la moyenne. C'est-à-dire, pour parler au plus grand nombre, on est obligé de viser la moyenne. Et selon lui, viser la moyenne, c'est du gaspillage. Hein, l'opportunité du social media, c'est pas une histoire de mass media mais de micro media. Ça, c'est très intéressant à prendre en compte pour vous qui êtes créateur de contenu qui nous écoutez. En gros, plutôt que de relier un seul produit ou un message à un large public comme à la télé, hein, ou à la radio, les médias sociaux, eux, ils connectent le contenu à des groupes de publics qui sont définis par des intérêts spécifiques. C'est ce qu'on appelle du micro ciblage et c'est ce que Seth Godin, lui, appelle des tribus.
Oui. Alors, des tribus, on va le développer. Je vais revenir juste sur les médias de masse comme la télé ou la radio. Pour moi, ce qui différencie aussi énormément les réseaux sociaux de ces deux médias un peu de masse que sont la radio et la télé, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un échange. C'est pas seulement une marque qui vient faire une publicité pour le plus grand nombre de personnes possible qui va regarder cette publicité ou même une émission de télé ou de radio qui va parler au plus grand nombre. Non, sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, c'est plutôt un lieu où les marques, ça va être un formidable moyen pour eux d'avoir un échange avec les consommateurs en direct, d'avoir des infos qui vont remonter, des infos qui sont ultra personnalisées sur chaque consommateur. Et rien que déjà pour cette idée-là d'échange avec le consommateur en direct sur une plateforme, on ne peut pas anticiper et prévoir sa communication sur les réseaux sociaux de la même manière que sur un grand média de masse. Donc, je pense que c'est déjà une première raison pour laquelle même la manière de fonctionner des plateformes sociales ne correspond pas à un média de masse de base. Ensuite, effectivement, il y a ce que cette Godin appelle les tribus. Et alors, lui, il a carrément redéfini le monde. Hein. Ouais, il est comme ça, Seth. Il a décidé qu'aujourd'hui, enfin, il l'a analysé et étudié, hein, qu'aujourd'hui, après une longue époque de consommation de masse, où on avait même pu voir en France, hein, durant les 30 Glorieuses, un peu la standardisation de la consommation avec l'arrivée des grands supermarchés et tout le monde qui consomme les mêmes produits, qui achète les mêmes machines à laver, les mêmes frigos. On retrouve tout le même électroménager dans tous les foyers français. Aujourd'hui, ça a changé et maintenant, le monde se définit en tribus beaucoup plus petites et avec des gens qui ont envie de se différencier des autres et donc, en fait, qui se retrouvent dans des petites tribus où ils remarquent que bah, dans cette tribu, les personnes parlent le même langage, aiment les mêmes choses étranges qui les différencient des autres à côté. Et quand on est une marque, d'après Seth Godin, il faut absolument arriver à parler à cette tribu-là, la nôtre, celle qui parle le même langage que nous, qui aime les mêmes choses que notre marque. Il faut arriver à parler à cette tribu-là parce que parler au reste du monde, c'est un gaspillage de temps.
Ouais, il a écrit un bouquin qui s'appelle « We are all weird », nous sommes tous bizarres, qui est aussi un sujet autour de l'ascension des tribus, hein, c'est exactement ça. Et lui, il dit que les notions traditionnelles de marketing destinées au client moyen, au client normal, eh ben, c'est dépassé. En gros, le client normal, ça n'existe plus, c'est fini. Tout pour une simple et bonne raison, c'est que les gens s'éloignent de plus en plus de ce qui est normal. Ils ne veulent pas du normal. Ils veulent quelque chose qui leur parle, qui leur ressemble. Et donc lui, Seth Godin, il dit que l'erreur que font les gens qui essayent de commercialiser un produit ou un service ou se commercialiser eux-mêmes, hein, ceux qui font du personal branding par exemple, eh ben la grosse erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est la tentative de plaire à tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche le marketing et encore moins sur les réseaux sociaux. Vouloir parler à tout le monde, eh ben, on l'a déjà dit, c'est comme parler à personne. Et lui, là-dessus, Seth Godin, il dit que le défi, ça consiste à engager un public qui appartient à ta tribu. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure.
Et moi, je trouve que vis-à-vis de cette théorie, on retrouve un parallèle hyper intéressant dans le monde de la musique, par exemple, où effectivement, quand on va vouloir faire des grands tubes qui vont toucher tout le monde, on va essayer de faire quelque chose d'un peu moyen qui va pas déplaire. On va essayer de faire quelque chose que tout le monde va pouvoir un petit peu chanter, que tout le monde va pouvoir un petit peu retenir avec des paroles un petit peu simples, pas trop dérangeantes et tout le monde pourra à peu près s'identifier à ça. Et quand on fait de la musique mainstream comme ça, c'est pas forcément le meilleur moyen d'avoir des fans qui vont vous défendre vis-à-vis d'autres personnes. Et plutôt quand vous allez avoir un petit groupe qui fait ou un groupe grand, hein, mais qui fait de la musique un petit peu plus... justement pour parler à sa propre tribu qui a son propre groupe de fans et qui va faire de la musique qui est moins mainstream, peut-être plus difficile d'accès, et ben vous allez avoir ce petit groupe, cette petite tribu qui va défendre ce groupe coûte que coûte sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes et qui va faire grandir ce groupe en fait en le défendant. Et c'est un peu le même principe, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut parler à votre tribu pour que cette tribu-là, après, elle puisse s'emparer de tous les messages et l'identité de votre marque et qu'elle puisse après aller elle-même, en fait, le défendre.
Vas-y. Ça me fait penser à... Alors là, on va parler d'un autre théoricien qui s'appelle Kevin Kelly, qui est fondateur du magazine Wired. Et il a écrit, lui, un article qui a vraiment tourné, hein, qui reste une référence, qui s'appelle « 1000 True Fans »,« 1000 vrais fans », et qui parle exactement de ça, hein, qui dit que tu n'as pas besoin d'être archi connu pour réussir en tant que créateur. Et là, notamment, il s'adresse aux artistes, aux blogueurs, aux podcasteurs, etc. Et il leur dit « Trouve 1000 personnes qui sont prêtes à acheter ou à écouter ou à lire tout ce que tu fais, eh bien, tu peux vivre de ton art, parce qu'effectivement, ces 1000 personnes-là, petite audience de 1000 personnes, eh ben, ce sont tes prescripteurs, c'est eux qui vont parler de toi. Il faut que tu t'accroches surtout pour aller chercher ces 1000-là. N'essaye pas d'aller parler à tout le monde d'un coup.
Oui, c'est ça, c'est plus important et c'est peut-être plus dur, mais c'est vraiment l'effort qu'il faut réaliser d'aller chercher ces 1000 personnes-là qui vont te défendre coûte que coûte, qui vont vraiment comprendre ta pensée ou ta marque ou ton identité et qui vont avoir en fait une identité très proche de la tienne. Eh ben, il vaut mieux aller chercher ces 1000-là, en gros, qu'aller chercher 150 ou 200 000 fans qui, au final, ne sont pas très intéressés par ce que tu fais, mais comme tu leur as fait gagner un truc une fois, ils sont là.
Et voilà, et c'est ce qu'a théorisé justement Seth Godin, et ce que lui, il appelle « the smallest viable audience », c'est-à-dire donc la plus petite audience viable. Peut-être que c'est 1000, peut-être que c'est différent. En tout cas, ça dépend de ce que vous avez à dire, de qui vous êtes. Et pour lui, eh ben, effectivement, au lieu de chercher à toucher tout le monde, eh ben, concentre-toi sur ta « smallest viable audience », la plus petite audience viable. C'est très intéressant, ça, c'est... effectivement, quand on est créateur de contenu, on souhaite parler à tout le monde. Nous, souvent, on a des clients. Quand on dit, mais c'est qui vos cibles? Bah, c'est tout le monde. C'est les gens normaux, comme vous et moi. Bah, non, mais on n'est pas des gens normaux. On est tous des gens un peu bizarres, avec des goûts différents, avec un ADN différent. Et donc, comme dit Seth Godin, on fait tous partie d'une tribu différente. Hein.
Oui, effectivement. Et là, quand tu parlais de bien définir ses cibles, je pense que c'est vraiment la base de la de toute bonne communication au final, qu'on retrouve même aujourd'hui dans le publicitaire, hein, sur par exemple sur Facebook, quand on veut faire de la publicité, effectivement, plus on arrive à cibler notre audience, plus on arrive à ultra cibler notre audience, à être le plus fin possible là-dedans, plus notre publicité va avoir des performances géniales pour nous, parce que on va toucher un public qui est ultra réceptif au message qu'on veut leur faire passer. Et si on ne fait pas cet effort-là de ciblage, bah notre message va se diluer auprès de personnes qui ne sont pas forcément intéressées ou
intéressées,
qui ne comprendront même pas le message.
Et puis effectivement, quand on essaye de parler à la moyenne, quand on essaye d'être moyen, et ben on est effectivement moyen, on est bof, voire on est invisible. Hein, c'est ça le sujet. Et là-dessus, Seth Godin, lui, propose une solution simple et assez radicale, hein, voire même contre-intuitive quand on est un marketeur, hein, dans un monde capitaliste, puisqu'il dit « investissez le plus petit marché accessible ». En gros, le plus petit marché que tu puisses imaginer. Prends ton marché de rêve, découpe-le en petits morceaux et va chercher le plus petit bout au milieu de ça, ce plus petit marché que tu peux soutenir, le plus petit marché sur lequel tu peux vraiment le servir et apporter une valeur ajoutée, et surtout devenir un change maker, c'est-à-dire devenir vraiment une référence sur ce micro-marché, parce que tu verras qu'assez ironiquement, eh ben, le mot va se répandre, et puis c'est là où tu as le plus de chances d'aller saisir le gros du gâteau ensuite.
Oui, effectivement, parce que de toute manière, c'est comme si vous posez la question de vous dire, est-ce que vous préférez parler à 5 personnes qui vous écoutent vraiment, ou est-ce que vous préférez parler à 15 personnes qui ne vous écoutent pas?
Oui, c'est ça, exactement.
Vous préférez parler à 5.
Et moi, j'ai un exemple comme ça d'une campagne pour une marque française que je trouve assez intéressante, parce que je trouve qu'elle va dans ce sens-là. C'est pour la marque de vêtements Jennifer. Tu sais, cette marque de vêtements qui, justement, est une marque de vêtements qui était un peu positionnée moyen. qui est un peu positionné, ben, c'est un peu pour tout le monde. Quand tu es dans cette tranche d'âge, tu vas acheter des trucs moyens chez Jennifer.
Enfin, plutôt les filles, quand même.
Plutôt les filles. Et donc, ils ont fait une nouvelle campagne qui s'appelle Don't Call Me, sur laquelle ils prennent un parti pris assez tranché, qui est de dire nous, on va s'adresser à cette partie d'audience-là, c'est-à-dire celle qu'on appelle cagole, celle qu'on dit bolos, etc. Donc, toutes celles qui, à un moment donné, achètent aussi nos vêtements, parce que c'est des vêtements qui ne sont pas les mieux coupés du monde, c'est des vêtements qui ne sont pas les plus chers non plus. Et ils se sont dit, nous, en fait, on va dire, c'est ça notre most valuable audience, c'est à eux qu'il faut qu'on parle et qu'on travaille ensemble une notion de tribu, un sentiment de proximité entre nous et la marque. Et à partir de là, travaillons exclusivement ça, soyons excluants vis-à-vis du reste du public. Et puis, en fait, on va voir que petit à petit, effectivement, on va réussir à augmenter nos parts de visibilité et de marché.
Je pense que, de toute façon, la marque référence qui a le plus travaillé cette image de tribu et qui s'est développée, je trouve, vraiment avec ça, c'est Apple. Qui a développé, qui n'était pas le premier vendeur d'ordinateurs, qui était derrière Microsoft et qui a, derrière les PC, qui a quand même réussi à travailler ça, à développer une tribu qui parlait le même langage que sa marque, à développer une identité forte. Et au final, son identité était tellement forte et sa tribu tellement importante et derrière la marque, quoi qu'il arrive, ils achèteront du Apple. Que quand ils se sont mis à sortir des MP3 et des téléphones, et bah, cette tribu, elle a suivi tout simplement.
Oui, totalement. Je trouve aussi que dans l'automobile, on pourrait parler de DS, hein, Citroën qui a lancé sa marque DS avec là un positionnement très clair qui est de dire on s'en fout de parler à tout le monde, on veut parler à une cible très précise, c'est la cible des gens qui veulent du différent, et justement on ne veut pas parler à un client normal, on veut parler à des gens qui cherchent autre chose dans leur voiture. Et ça, en fait, c'est tout le sujet. C'est comment je peux arriver, y compris dans ma production de contenu sur les réseaux sociaux, avoir un parti pris qui est celui de m'adresser à une micro-audience. Et à ce titre, on peut parler aussi d'influence marketing, parce qu'en fait, ce que dit Seth Godin, forcément, a un impact, hein, dans l'intégralité de la chaîne de valeur marketing, et notamment en influence marketing, et notamment sur les sujets de micro-influence.
Oui, bah oui, vous pouvez payer très cher pour avoir d'énormes influenceurs avec des très très grosses communautés, mais au final, quel est l'intérêt de cette grosse communauté pour votre marque à vous? Il serait peut-être plus judicieux de se poser la question de « Ok, quel influenceur je peux trouver qui va avoir une audience Je m'en fiche un peu de la taille, une audience qui a une audience. Et mais là, pour le coup, son audience, elle, c'est typiquement ma cible à moi. Et là, si cet influenceur, il parle de moi, je sais que son audience, c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Et en plus de ça, bien souvent, quand un influenceur va avoir une plus petite audience, il va avoir un impact sur cette plus petite audience, un lien beaucoup plus fort avec son audience qu'un énorme influenceur qui a 200 000 abonnés, qui lui aura un impact plus minime parce qu'il n'y aura pas le même lien de proximité entre l'influenceur et son audience.
Ouais, donc ça c'est intéressant, c'est que la smallest viable audience, cette plus petite audience viable, eh ben on peut la chercher effectivement dans son contenu, dans le contenu qu'on propose sur les réseaux sociaux, dans sa tonalité de marque, et puis effectivement dans ses actions de communication et notamment d'influence marketing, et aller s'adresser à la smallest viable audience de ces influenceurs et aller chercher des micro-influenceurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un micro-influenceur, hein? Pour rappel, c'est un peu flou, entre 3000 et 50 000 peut-être.
Oui, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu flou pour arriver à... C'est que des chiffres après, mais en tout cas, c'est des gens qui ont une audience plus petite que le reste de la moyenne. Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que les médias sociaux, ils ont changé les habitus un peu culturels autour de la communication et du marketing, tout simplement parce qu'ils ont, et c'est ça ce que montre cette micro-influence, c'est qu'ils ont permis à des gens de monter des micro-communautés de personnes qui se ressemblent, alors que les médias de masse, comme la télé ou la radio, ne permettaient pas ça avant. On n'avait pas ces micro-communautés. On regardait tous les mêmes chaînes, il y avait 6-7 chaînes à la télé, et on regardait tous les mêmes. Et là, c'est des gens qui étaient de l'autre côté de l'écran, du coup, qui se sont mis à créer des micro-communautés et des micro-communautés, du coup, qui sont très fortes parce que les gens, ils ont choisi de faire partie de cette micro-communauté. C'est ce qui change tout par rapport à un média de masse.
Et je trouve qu'à ce sujet, ça me fait penser aussi que sur une marque, aujourd'hui, il y a sans doute un intérêt à aller... c'est notamment ce que fait Facebook avec ses groupes. Hein, pourquoi ils remettent les groupes au cœur de l'écosystème, de la plateforme?
Oui.
C'est justement cette logique de tribu. Hein, ils ne s'en cachent pas. Ils parlent de communauté à longueur de temps. En ce moment, Facebook, hein, ça fait un an qu'on n'entend que ça, communauté, communauté. Et pour une marque, aujourd'hui, ça peut être très intéressant d'aller travailler sa smallest viable audience, sa plus petite audience viable, sous la forme d'un groupe et d'être dans quelque chose de beaucoup moins top-down dans l'échange entre la marque et ses clients, consommateurs, fans, abonnés, et de travailler vraiment une logique de tribu, de groupe, dans une petite audience de page, de groupe.
Ouais, de groupe. Et ça, c'est sûr que le développement des groupes sur Facebook avec le nouvel algorithme et la nouvelle présentation sur téléphone, etc., va dans ce sens-là.
Ça donne raison à 7.
Exactement. Et moi, je pense aussi à autre chose dont on avait parlé une fois dans le Super Daily par rapport à Instagram, de ces influenceurs ou de ces marques, ça arrive pas trop encore, ces influenceurs qui repassent en privé.
Ouais, tout à fait.
Qui repassent en privé sur Instagram. Et du coup, ça donne un peu ce sentiment-là aussi de groupe plus fermé, puisque c'est privé. Tu es obligé de t'abonner pour pouvoir aller avoir le contenu et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est un peu cette même idée de petite communauté, de plus petite en tout cas, communauté qui partage beaucoup de choses ensemble.
Voilà ce qu'on voulait vous dire ce matin sur The Smallest Viable Audience. Vous l'avez compris, aller travailler une audience très forte, très proche de son ADN de marque, plutôt que d'aller absolument chercher du quantitatif, du volume. On serait très curieux d'échanger avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit notre binoclard préféré, hein, Seth Godin? On vous mettra des liens vers Seth Godin et son blog notamment, qui est passionnant, en note de ce podcast. Venez nous en parler sur nos réseaux sociaux.
Oui, à Super Natif, hein, venez nous poser vos questions sur LinkedIn, sur Twitter, Instagram ou Facebook, et puis laissez-nous une petite note ou un petit commentaire si vous êtes en train de nous écouter sur Apple Podcast, par exemple.
Voilà,
et voilà.
Ça nous ferait très plaisir. On vous souhaite à tous une très belle
Exactement.
Journée et on vous donne rendez-vous dès demain. Salut
ciao,
les amis.
Ciao.